Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le numéro 564 si je ne me trompe pas. Plume et Thomas sont à mes côtés, mais très très loin en fait. N'est-ce pas, Plume et Thomas? Vous êtes là,
Oui,
hein?
mais loin des yeux, mais pas loin du cœur, tu sais bien
Voilà,
que
exactement. Tu l'as dit, Bouffi. Et Thomas, bien sûr, qu'on ne présente plus jamais.
Eh ouais, gardien du temple.
Exactement.
Seul à bord. Et ravi de pouvoir entendre le délicat timbre de ta douce voix.
Ouais,
C'est vrai que
vous
ça faisait
m'entendez
longtemps,
bien
ça.
là, parce que je suis un peu loin, visiblement, j'ai un problème technique, mais bon,
Bah,
on va
surtout,
essayer de faire avec.
t'arrives à avoir un soleil incroyable, alors que pourtant, le fond, derrière toi, on dirait qu'il fait gris. C'est bizarre.
Ouais, comme dans ta
C'est.
tête.
Ouais, exactement. Oui. Il fait très gris dans ma tête,
C'est le
absolument.
soleil de Glasgow.
Ouais, ça
Ouais,
doit être
prenons
ça.
pas de temps, parce que mine de rien, ça va pas durer 3 heures, hein, ce podcast, hein, je vous le dis, moi. Non, je rigole.
Ok.
On va commencer évidemment par un win un fail, et puis il y aura les thèmes que vous allez découvrir, notamment avec un certain Resident Evil Showcase. Et la démo, est-ce que vous y avez joué ou pas? Moi non, j'avoue. Mais Plume, il l'a fini 40 fois, je crois, et Thomas aussi.
Bah
Et
non, on peut
Bouffi, j'y
pas.
connais même pas la technique. Donc voilà, et puis à la fin, vous verrez les autres thèmes qu'on va aborder avec des petits jeux sympatoches, et puis un débat d'idées qui ne demande qu'à être débattu et répondu, bien sûr. On commence bien sûr tout de suite par le win et le fail. Et qui commence par la win, bien sûr, c'est un certain Thomas
Eh
P.
ouais, la
Va nous
win,
raconter des choses super bizarres.
ça nous va. Bah, je vais vous
Et
raconter
flippantes.
surtout un retournement de situation, plot
Dis-moi.
twist, puisque bah, vous savez que ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle d'ailleurs dans le podcast de Gameblog, hein. Il était prévu que les PlayStation Store des PS3, PSP, arrête ce placement de produit, mon cher Plume, c'est interdit. Et celui de la Vita devait fermer leurs portes très bientôt. Et finalement, devant la gronde des joueurs assez répétée, on en a quand même traité ici à quelques occasions, et bien finalement, Sony fait machine arrière et décide eh bien, que bah, le store de la PS3 et de la PS Vita vont finalement rester en ligne, et seul celui de la PSP va finalement rendre l'âme. Et on a tout un communiqué dont tu nous as fait part, mon cher Traz, sur Gameblog, qui réussit tout de même à transformer un petit peu la chose et à laisser penser que ben, bon, finalement Sony a effectivement entendu la colère des joueurs et qu'ils s'étaient un petit peu trompés, que voilà, ils ont pris une mauvaise décision, mais ils essayent de retourner un petit peu de noyer le poisson en fait quelque part pour éviter de s'en mêler les pinceaux. Et c'est ben, Jim Ryan en fait qui fait contre mauvaise fortune bon cœur et bah, qui a décidé, en tout cas qui a communiqué là-dessus. Et bah, c'est évidemment une bonne nouvelle. Ça montre aussi, ça illustre, s'il y avait encore besoin de le faire, le pouvoir que peuvent avoir les joueurs lorsqu'ils se mobilisent un peu et qu'ils l'ouvrent suffisamment bruyamment et suffisamment longtemps sur, a priori, en tout cas les réseaux sociaux, parce que c'est notamment cité dans le communiqué. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi pour eh bien, tous les joueurs qui n'auraient pas forcément envie de tout de suite tourner la page et d'oublier peut-être tous les titres qui étaient sortis sur ces consoles d'ancienne génération. Donc voilà, c'est un win pour les joueurs en tout cas et pour l'industrie. Et ça rappelle peut-être Sony à son devoir de conservation qu'il avait visiblement envie de laisser tomber pour se concentrer véritablement sur le futur. Mais là voilà, retournement de situation. Alors évidemment, combien de temps est-ce que tout ça va durer? On ne le sait pas, suite au prochain épisode, hein, là pour le coup, c'est la
Ouais, parce
PSP
que
qui tire sa révérence.
c'est bien que les joueurs aient gueulé, mais si ça fait comme les librairies en France pendant le confinement où on dit ah oui, mais vous avez fermé les librairies, c'est pas bien, et personne retourne à la librairie après une fois que c'est déconfiné. Si tu veux, c'est un petit peu facile. Ça se trouve, il va y avoir zéro achat et Sony, et dans 2 jours, ils vont dire moi, finalement, bande de cons, vous êtes foutus de nous, il y a
On
rien
fait
qui se
juste histoire
passe.
de gueuler, quoi. Ouais.
Voilà, exactement,
Ah bah vous
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 avez
doutez
gueulé.
bien que le volume va être assez restreint, je pense, en termes de vente, hein, sur PS3 comme sur Vita.
Eh
Alors le
bien,
problème.
détrompe-toi, Thomas. Voilà, regarde, elle est là, ma Vita. Et eh ben, je vais aller acheter plein. Non, je vais pas aller acheter plein de jeux. Désolé,
Bah oui,
j'ai
mais
pas
le
ça à faire.
problème, c'est qu'il y avait des portages qui étaient en cours. Romain nous en avait parlé il y a quelques
C'est vrai.
semaines sur Vita, justement, qui avait du coup été stoppé en fait du fait de cette décision. Donc, une fois de plus, ça témoigne quand même d'une espèce de pagaille en termes de prise de décision du côté de chez Sony. On a l'impression qu'ils savent pas trop vers où ils naviguent et qu'en tout cas, ils sont pas tout à fait sûrs à chaque fois qu'ils prennent une décision. Donc, ça n'envoie pas forcément un très bon message d'une manière générale en termes de com, mais pour nous, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque bah, on va pouvoir avoir peut-être un petit peu plus de temps pour blinder ces PS3 et PS Vita de tout un tas de jeux rétro.
Exact. Bah, écoute, parfait. Merci beaucoup pour ce win. Mais est-ce que ça va être un vrai win? On verra. On verra ça dans le Turfu et dès cet été d'ailleurs. On continue avec le fail. Plume, c'est toi qui t'y colle cette fois et c'est pas étonnant ce fail-là,
Ah
j'imagine.
bah non, non, c'est pas étonnant du tout puisque ça
Elle est
concerne Amazon.
prévisible.
Amazon Games, donc une fois de plus, qui arrive à nous faire un coup auquel on pouvait s'attendre depuis un petit moment. Alors, Amazon Games, on rappelle que pour l'instant, à son tableau de chasse, il y a deux jeux annulés. Le premier, c'est Breakaway. Le deuxième, c'est Crucible. Alors, Crucible, l'histoire était très drôle puisqu'il est sorti. Il n'était pas bon, donc il est passé en bêta. Sauf que c'était toujours pas bon, et du coup, il a été annulé dans la foulée. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent donc, qui ont été dépensés pour l'instant. Et il y a un autre projet, malheureusement, qui vient de faire les frais de tout un tas de soucis de droit cette fois. C'est le MMORPG de Seigneur des Anneaux, donc de Lord of the Rings, qui avait été annoncé, rappelez-vous, en juillet 2019, et qui devait être développé avec le studio chinois Leiyu. Sauf que Leiyu a été racheté par Tencent en décembre dernier et que Amazon et Tencent, en bons géants de l'Internet qu'ils sont, n'ont pas réussi à s'entendre l'un et l'autre. Du coup, eh bien, ça a tout foutu en l'air du côté des droits et du coup, eh bien, le jeu est tout simplement annulé. Ce qui fait que maintenant, du côté de chez Amazon Games, il ne reste plus que un jeu dont on connaît l'identité. C'est New World, un MMO lui aussi en développement depuis un bon paquet d'années, qui s'est encore reporté il y a quelques semaines. On devait l'attendre pour le printemps, si je ne m'abuse, et finalement, on aura une bêta fermée le 20 juillet pour une sortie le 31 août. Sauf que, bon, bah, encore une fois, on est sûr de rien, et même s'ils ont l'air d'y tenir chez Amazon, ça sent quand même assez mauvais, malheureusement. Comme pour Google, c'est pas parce qu'on est un géant de la Silicon Valley que toutes les choses se passent convenablement. Et encore une fois, on aura une pensée pour les développeurs qui sont impliqués dans ces projets, qui voient pas le bout, malheureusement, à chaque fois, qui doivent être bien découragés, malheureusement. On espère que, au moins pour New World, ça va bien aller et que. On pense aussi au projet Luna, hein, le projet de cloud gaming d'Amazon, qui est bon, on ne peut pas dire qu'on en parle beaucoup, beaucoup.
J'avais
Ça
oublié celui-là.
fait un peu comme Stadia, c'est ce genre de choses qui s'oublient vite. Voilà, donc on surveillera, comme d'habitude, on surveillera. Mais c'est triste que ce MMO, qui pourtant dans l'idée est quand même quelque chose d'appétissant, je veux dire, un MMO Seigneur des Anneaux, ça peut être très bien de se retrouver dans la Terre du Milieu. Bon, bah, ça ne sera pas pour cette fois, malheureusement.
Eh bien oui, tout
Tu
à
disais
fait.
que c'était pas évident quand on était même des géants de la Silicon Valley. Je pense que c'est même pire en fait, parce qu'ils n'ont pas d'expérience en la matière. Ils ont voulu débaucher sans doute quelques grands noms avec peut-être les égos qui vont avec. Et on voit que ben, du côté de chez Amazon comme chez Google, à chaque fois tout plante, en tout cas pour l'instant. Donc ça envoie pas non plus là de très bons signaux.
Et à en croire pas mal
C'est pas rêvé.
d'enquêtes ou de reports, dont ceux de Jason Schreier, évidemment, c'est surtout que bah, du côté de la Silicon Valley, on aime bien lancer des trucs, mais on n'aime pas y mettre les moyens, visiblement, et qu'on aime bien pressuriser un peu les employés sans leur offrir de perspectives sûres et saines. On aime bien leur dire, ah, dépêchez-vous hein, de faire un Boeing avec un élastique et un crayon. Donc bah, voilà ce que ça donne. En
Mais
général, ça
MacGyver y
donne
arrivait
quelque
tout
chose de.
seul. Où est le
Alors,
problème?
ah non, MacGyver, il fait des bombes avec un chewing-gum, c'est
Ah,
différent.
problème.
Voilà.
Parfait. Bah, écoute, merci Plume pour ce fail.
Ah bah
Écoute,
de rien, j'y suis pour rien.
ah
Voilà.
ouais.
Merci, merci Amazon et
Ah, c'est
Tencent.
des événements comme toujours. Et c'est multiples surprises. Tout de suite, on va passer au thème numéro 1. Et ce thème numéro 1, bien sûr, vous l'aurez compris, puisque ça fait quand même l'actualité, c'est le Resident Evil Showcase. Et la démo de RE Village. Donc j'imagine que tout le monde y a joué 40 000 fois à cette démo.
Bon, bah
Et
ça,
juste.
oui, on va en parler après. Il y a un truc qui m'a étonné. Tiens, on va déballer notre linge sale en famille.
Allez, vas-y, déballe tout.
C'est que justement, j'ai voulu y jouer deux fois.
Et en
Et je me
fait, t'as
suis
pu
dit,
jouer qu'une
tiens,
fois.
je vais utiliser le compte de la rédac. Et bah, figurez-vous que le compte de la rédac, je pouvais pas y rejouer. J'avais encore le message, bah non, désolé, la démo, va falloir attendre un petit peu avant de rejouer une autre démo. Donc, je sais pas qui y a joué avec le compte de la rédac,
C'est pas moi.
mais c'est pas sympa. Voilà, c'est pas très sympa.
Est-ce que
Il
c'était pas tout
pense que.
simplement le fait que tu sois resté sur ta console et qu'il y ait une
Non, alors.
détection du modèle?
Ben non, normalement, tu changes de compte et puis voilà quoi.
Ben, je sais pas, on est surveillé aujourd'hui, donc ils ont peut-être ton numéro d'IP, de sécu et tout, et ils ont fait le rapprochement.
Ah, mais c'est vrai que je donnais mon numéro de sécu la semaine dernière, j'avais oublié, tiens.
Voilà.
T'as raison.
C'est ça, c'est
Bon,
sûr.
bref, j'y ai joué qu'une fois, mais c'est vrai qu'il y a eu le Resident Evil Showcase la semaine dernière qui était quand même vachement, vachement intéressant pour les gens qui suivent Resident Evil Village, mine de rien. Parce que déjà, il y a eu la nouvelle bande-annonce qui forcément met en appétit. Je ne sais pas ce qu'en pense Thomas, mais moi, j'avoue que tout ce qu'on voit au fur et à mesure de ce Resident Evil Village me donne un goût de Resident Evil 4 que je ne soupçonnais pas forcément à chaque fois, avec des persos de plus en plus bizarres les uns avec les autres. Je pense à ces différentes familles, parce qu'on parle beaucoup de Dimitrescu, et a raison, parce qu'elle est phénoménale.
Bien
On
sûr.
n'arrêtera jamais de le dire. Ce personnage a quelque chose de plus, mais les autres familles, plus l'espèce de matriarche qui veille par-dessus tout ça, c'est. Enfin, je sais pas, je pense à Heisenberg ou je sais plus comment s'appelle le monsieur un peu fort qui reste sur sa chaise aussi.
Le gros vendeur, ouais.
Ouais, j'ai oublié son nom. Plus une espèce de tout petit, de toute petite personne squelettique, rachitique qui va se balader quand on a une vision de ces différents personnages. Vraiment, moi, je ne peux que penser à Resident Evil 4 qui était le plus bizarre au niveau du casting. On se rappelle, c'était Salazar, c'est ça le nom du petit monsieur
Oui, le plus petit monsieur, ouais.
que moi j'avais défoncé à coup de bazooka parce que tellement il m'énervait.
Ah bah c'était one shot normalement.
C'était one shot, c'est ça? Voilà, j'ai vraiment pensé à lui à ce moment, en revoyant encore ces personnages. Et pour moi, ça ne peut donner que des bonnes choses.
Je suis assez d'accord. Enfin, on sent qu'il y a une tendance de fond. On a l'impression que maintenant qu'ils ont réussi à peu près recycler tous les premiers opus, sauf Code Veronica, ils ont vraiment envie de s'appuyer sur le succès de Resident Evil 4 pour aussi d'autres raisons. Je pense qu'on va y venir juste après. Mais on a l'impression que oui, ça devient un peu maintenant le nouveau référent en fait de la saga, même avec ce changement de gameplay qui a été inauguré avec le 7. Moi, je t'avoue que j'ai partagé le sentiment de pas mal de nos lecteurs. Moi, j'ai vu beaucoup de réactions ici et là, à savoir que Capcom en dévoilait a priori beaucoup. Mais alors vraiment beaucoup sur justement les personnages et tout un tas d'éléments, de surprises qu'il pourrait y avoir dans Resident Evil Village. Et d'ailleurs, Romain avait fait le choix dans sa preview de ne justement pas tout dévoiler pour laisser ces surprises intactes. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez justement en apprendre peut-être un petit peu plus sans trop vous spoiler, allez plus voir ces impressions que les trailers en fait du Resident Evil Showcase parce que on a déjà découvert en fait pas mal de choses, alors en espérant que ce soit évidemment que le début de l'aventure, mais Capcom a l'air de beaucoup, beaucoup communiquer sur cet épisode qui sort dans pas longtemps en plus.
Après, il y a montrer les choses et connaître l'intrigue. Pour l'instant, l'intrigue, on la connaît pas. L'intrigue, on a des bouts qui traînent, des trucs avec Chris qui semblent un peu farfelus et surprenant, mais en elle-même, l'intrigue, on la connaît pas du tout. Et j'ai feuilleté, enfin feuilleté, j'ai zioté rapidement les impressions d'IGN, puisque IGN a eu beaucoup plus de chance que nous. Ils ont quelqu'un qui est au Japon, qui est à Osaka et donc qui a pu se rendre chez Capcom pour y jouer pendant 5 heures, ce qui est quand même
Oui.
quand même plutôt plutôt sympa pour découvrir le jeu. Et il arrive à rien spoiler non plus. Visiblement, il n'y a pas grand-chose qui se développe pendant ces 5 premières heures. Et donc tant mieux, parce que ça veut dire que moi je pense qu'on nous a gardé pas mal de choses. Après, le bestiaire, effectivement, là c'est cuit. Si vous voulez pas savoir ce qu'il y aura comme bestiole dans celui-là, c'est mort. Si vous voulez pas savoir qui sont les capos de chacune des familles, c'est mort. Et puis après, les aperçus du manoir, les aperçus du village, je pense qu'il y a encore bien d'autres environnements qui nous attendent et qu'on n'a pas encore aperçus. Pareil pour les énigmes et les différentes armes. Je pense qu'on est loin d'avoir tout vu, mais genre vraiment très loin. Quand on se rappelle Resident Evil 7, la variété dont ils faisaient preuve malgré le fait qu'on était dans un endroit qui était enfermé et qu'on nous avait montré quand même beaucoup de choses sur la famille Baker avant qu'ils sortent, moi j'ai quand même été très surpris par le set et très souvent malgré les nombreux trucs qui ont été montrés.
Bien puisses-tu avoir raison. J'espère qu'ils ont organisé et géré la com de la même manière pour celui-ci.
Espérons, espérons.
Et on parlait effectivement de Resident Evil 4, c'était aussi l'une des surprises de ce Resident Evil Showcase, c'est que le jeu va arriver sur Oculus.
Et ouais, Oculus Rift 2. Alors tout le monde s'attendait à un remake en bonne et due forme de Resident Evil 4. Ça tournait depuis quelques semaines, quelques mois dans les rumeurs. Finalement, c'est sur Oculus Rift 2. Ça va être assez spécial, je pense. Je sais pas qui va vouloir essayer ça à la rédac. Je pense déjà que Versinge, qu'on
Ouais, il va
embrasse
s'y
d'ailleurs
coller,
au
c'est sûr.
passage, il va s'y coller. Mais je serais très curieux de voir ce que ça peut donner, d'autant que je me demande s'ils vont vraiment adapter on va dire la raideur de Resident Evil 4, qui reste, si c'est un jeu tourné vers l'action, un jeu qui n'a pas encore cette évolution qui est arrivée dans Resident Evil 5 ou 6, je ne sais plus. Tu sais où on peut. Non, c'est dans le 6, hein, le moment où on peut commencer à tirer en bougeant et en cavalant.
C'est à partir du 6, le 5 reprenait vraiment un peu les mécaniques du
Ouais.
4.
Bah donc voilà, donc ça, en même temps, on remarque quand t'es en réalité virtuelle, il ne faut pas que ça bouge trop. Mais je me demande si ça va rester pour cette version Oculus Rift 2. Comment certaines mécaniques vont être gérées. Enfin, il y a beaucoup plus d'interrogations que de révélations par rapport à ce Resident Evil 4 sur Oculus Rift 2 concernant.
Surtout que ça participait de l'équilibre, le fait d'être dans un personnage qui avait plus de liberté de mouvement que dans les épisodes précédents, mais qui avait quand même effectivement cette raideur dont tu parlais, structurait aussi l'équilibre du jeu, où tu devais souvent marquer des arrêts, ajuster ton tir, gérer la distance avec les ennemis. Donc c'est vrai que si ce côté-là est transformé par l'apport de la réalité virtuelle, il faut voir comment Capcom a éventuellement retravaillé sa copie.
Donc,
Moi, en tout cas, je
à
suis curieux.
voir.
Personnellement, c'est un jour sous lequel j'aimerais bien redécouvrir Resident Evil 4, qui est quand même, malgré le fait qu'il ait un peu vieilli, un très 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 grand jeu de la GameCube, évidemment, sur les autres consoles sur lesquelles il est sorti après, mais je suis assez saucé, moi, par cette annonce.
Ah, personnellement, j'imaginais plus que pour les 25 ans de la licence et fin du premier épisode, ils allaient se pencher sur le premier en version remake, parce qu'il y a des modeurs qui s'en sont chargés déjà, hein. Mais le premier, dans sa version de GameCube, enfin GameCube HD maintenant, en réalité virtuelle, je pense que ça ferait un jeu mais épouvantable pour les nerfs.
Oui,
Et
mais il faut refaire les décors en 3D, là où ceux du 4 sont déjà modélisés finalement.
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Donc ça demande un tout petit peu moins de travail, et puis peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui se préparent du côté de chez Capcom, mais que pour l'instant, ils abattent cette carte-là, peut-être aussi pour voir quelle sera la réaction du public et surtout du marché.
Possible, possible. Après, il y a eu, enfin, c'était la grosse surprise du truc, mais il y a eu d'autres choses intéressantes. Moi, je pense qu'il y a le manque vraiment de focus sur Reverse, le mode multi, en dit beaucoup quand même sur le peu d'intérêt qu'on peut avoir par rapport à ce mode soi-disant anniversaire, mais qui, enfin, bon, bref, il y a des bêtas qui arrivent encore une fois. Pour ce mode, on verra bien. Mais bon, la surprise, c'était, enfin, la non-surprise, c'était peut-être le retour du mode Mercenaries, qui est là depuis 107 ans dans Resident Evil. Bon, voilà, c'est pas une grosse surprise de voir ça. Les autres trucs qui étaient plutôt intéressants ou pas intéressants du tout, c'était l'arrivée d'un contenu dans Dead by Daylight. Bon, voilà, après Silent Hill, après je sais pas combien d'autres. D'autres licences, bon, c'est pas vraiment.
Pas nouveau.
Voilà, c'est pas quelque chose de super,
Mmh.
super sexy à mettre en avant dans un Identity Showcase, à mon avis.
Et le
Et
mode
puis.
mercenariste, du coup, ça change beaucoup de choses, ça, ou ça change rien? C'était déjà assez
Voilà.
vieux, ça.
Bah oui, le mercenariste, ça fait depuis.
Non,
Depuis Nemesis, au moins, non?
C'est. Non, c'était après, c'est arrivé après, non? Je
Alors,
sais plus quoi.
il est au moins présent dans le 4, avec oui, ce côté arcade où tu enchaînes des missions en essayant de grappiller du temps, etc. C'est quelque chose de connu maintenant dans la série, mais quelque part, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que d'un côté, enfin, tout le monde a compris, et a priori, même Capcom, que tout le
Les
monde s'en fout
mercenaires.
du mode reverse. Ils essayent de le vendre, et on sent bien que ça ne prend pas. Les joueurs sont pas particulièrement passionnés, et depuis le début. Donc, à la limite, d'avoir un mode qui va prolonger un petit peu l'expérience avec une dimension un peu plus rentre dedans, pourquoi pas? Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié creuser un petit peu dans les épisodes que j'ai bien aimé. Ça commence à dater un petit peu,
Il
mais.
était apparu dans Resident Evil 3 Nemesis pour la première fois,
Ouais,
apparemment,
c'est
pas la version
ça.
originale.
Et ben
T'as
voilà!
raison.
Vous
Ouais,
voyez,
c'est
vous me
vrai.
donnez toujours tort.
Alors, je pensais que c'était dans le
Exactement.
4, mais t'as
Alors
raison,
que dans
c'est
la
pour.
pratique, vous voyez bien que j'ai toujours raison.
Dans
C'est
le 4, c'était quand
quand
même.
même dingue, ça.
Il faudra voir pour le.
voir ce que ceci
pour le Mercenaries. Et puis bah après, encore une fois, on a pu voir un petit peu plus de Resident Evil Infinite Darkness, donc la série d'animation qui sera sur Netflix, qui arrivera en juillet, qui fait pas vraiment rêver dans les chaumières, mais bon, après, encore une fois, quand on se retrouve avec du Resident Evil, avec Léon et Claire, qui se retrouvent à la Maison Blanche, et la Maison Blanche est assaillie par des zombies, je pense qu'il y a quand même moyen de se marrer un petit peu.
Ça dépend du ton.
Bah, ça va être faussement sérieux.
Mais au moins, ils reprennent des personnages qui ont une certaine cote auprès du public. Donc, on va dire qu'ils ont misé sur les deux bons chevaux.
Bah oui, c'est un peu le couple, c'est un peu le couple qui marche le mieux pour les fans, je pense.
Bon, ça n'a pas l'air ouf quand même, hein, on ne va pas se mentir.
Non.
T'as mal à la démo, toi, ou pas ? J'ai pas entendu.
Alors, pas du tout. Pas du D'accord. tout, parce que tu me connais, les contraintes et tout, ça m'embête un peu, donc j'ai même pas pris la peine. Et puis, non seulement, à commencer par le mien, mais comme en plus on est quand même assez proche de la sortie de la version définitive, quitte à attendre encore quelques semaines, autant faire le jeu dans son intégralité. Et puis bon, j'avais quelques tests aussi, trucs comme ça, sous le coude, toi-même tu sais.
Ouais, bah alors, moi, je peux vous en parler, moi, de cette foutue démo, si vous voulez.
Bah justement, vas-y. Hein. Mais de toute façon, elle dure pas très longtemps, c'est quoi, 20 minutes, 25 minutes
30 minutes, exactement. 30 minutes montre en main et 30 minutes avec cinématique comprise, évidemment. Temps dans les menus compris. Donc, c'est... Bon, comment t'expliquer c'est très frustrant, voilà. C'est pas la première fois que Capcom fait ça, je pense qu'il devrait s'en passer. Dans ce format-là, parce que vraiment 30 minutes, c'est pas assez du tout pour ce qu'il est possible de faire. Alors, l'avantage de cette première partie de démo, parce que ça va être en plusieurs parties, hein, il y a tout un bordel à suivre par rapport au déploiement des nombreuses démos, d'abord sur PS4 et PS5, et puis ensuite il y aura une deuxième partie, et puis ensuite pour tout le monde. C'est difficile de s'y retrouver. La news est sur Gameblog si vous voulez savoir exactement comment ça se passe. Là, jusque. Dans pas très longtemps, vous allez pouvoir donc jouer sur PS4 et PS5 à cette démo qui vous emmène donc uniquement dans le village. Et ça commence plutôt bien. Alors, c'est pas le tout début du jeu. Je pense que c'est vraiment l'arrivée du village. C'est un peu plus tard dans le jeu. Et t'as une vieille dame qui t'accueille, qui te dit « Ah bah, bienvenue, bien joué », puis elle te ferme la porte derrière toi, puis tu fais « Bah merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, bah, tu t'avances, t'as déjà un flingue, t'as déjà un couteau, le village n'a pas l'air très très accueillant, c'est pas, c'est pas plein de vie, hein. Donc tu peux commencer à visiter.
Ce qui est rarement le cas dans la série, hein, ceci dit.
Bon, excuse-moi, mais en Espagne et en Afrique, y avait du monde hein, quand t'arrivais.
Ouais, un peu plus en Afrique, mais en Espagne, on va pas dire que c'était plein de vie. C'était pas la fête au village quand t'arrivais.
En Espagne, excuse-moi, mais avant que la cloche elle sonne, il y a quand même du monde. Bon, voilà. Là, donc, il y a personne qui est présent dans le village. Vous pouvez déjà voir un petit peu deux, trois trucs qui peuvent attirer votre attention, genre un petit truc qui scintille dans l'œil d'une statue à l'entrée. Si vous tirez dessus, vous voyez que vous avez déjà un petit trésor. Il y a des cages à oiseaux aussi qui se baladent avec évidemment des objets. Donc déjà, vous avez un aperçu du fait que Capcom va maintenir un petit peu les collectibles et les secrets dans le jeu. Vous pouvez déjà visiter une chapelle, une maison, récupérer pas mal d'objets. Moi, j'ai pas eu le temps de tout voir. Alors, je sais qu'il y a un tournevis à récupérer à un moment pour débloquer d'autres mécanismes. Malheureusement, j'ai pas pu le voir, puisque au bout de 30 minutes, j'avais à peine fait la moitié de la démo. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on peut, dans cette démo, déjà affronter je suis obligé de le dire, des loups-garous, qui ressemblent à des loups-garous. En tout cas, ils ont un autre nom hein, dans le jeu, donc comme ça, je vous le garde en secret. Combat... somme toute un peu déséquilibré parce qu'ils sont trois au moment où on atterrit dans les champs de blé. D'ailleurs, c'est pas mal d'avoir mis ça dans des champs de blé pour justement créer une espèce de peur supplémentaire. Ça a bien marché sur moi, j'ai pas mal paniqué, mais je les ai quand même butés avec des trucs à ramasser, pareil, des petits trésors à ramasser sur eux. La possibilité de repousser est intéressante. Après, ils n'étaient pas très futés non plus, donc j'ai pas eu trop de mal, même quand j'arrivais à les louper, parce qu'ils ont toujours ce petit ce petit mouvement d'esquive un peu chiant pour éviter les balles. Quand vous arrivez à les avoir en pleine tête, vous dites « Ah ouais, ça y est, je vais l'avoir en pleine tête », puis il a bougé juste au dernier moment, c'est un peu relou. Donc, combat plutôt péchu, plutôt sympa, avec le flingue et le fusil à pompe. Toujours les mêmes options de construction, de crafting, de balles avec de la poudre noire et des morceaux de métal, avec de quoi aussi se faire des bombes pour se soigner avec de l'herbe notamment. Bref, c'est vraiment du Resident classique à la première personne, totalement dans la continuité du set. Et vous avez, mine de rien, pas mal de moments où des choses se développent un petit peu, que vous allez rencontrer enfin des personnes à un moment. Une fois que vous aurez buté les trois loups-garous, justement, et ben vous allez assister à une scène un peu bizarre avec ces villageois. Il va y avoir une espèce de fuite juste derrière. Et peut-être, si vous avez du pot, vous aurez le droit d'utiliser les deux mécanismes à trouver dans la démo pour rentrer enfin dans le château qui sera la deuxième démo qu'on verra. Donc Lady Dimitrescu, c'est pas pour cette fois, dans la démo d'une demi-heure. Thomas, tu voulais dire un truc? Oui,
est-ce que tu as eu l'occasion de croiser le marchand? Parce qu'on a vu qu'il y avait tout un tas de nouvelles mécaniques à base de recettes de cuisine vis-à-vis justement de morceaux de viande que tu récupères sur les ennemis que tu as pu buter à certains moments, qui apporteraient des améliorations, etc. Bon, d'accord, donc ça n'a pas encore été...
Ça, je l'ai pas. Enfin, en tout cas, je l'ai pas croisé dans ma démo. Je crois que Romain, lui, a pu en voir beaucoup plus dans son heure de gameplay.
Lui, il l'a vu, oui.
Donc là, pour le coup, je pense que par rapport à la démo, que moi personnellement, je trouve très encourageante. En tout cas, je me rappelle qu'à l'époque de Resident Evil 7, ta première démo, ça m'avait pas plu du tout, et j'avais trouvé ça pas original. Là, du coup, maintenant, quand on connaît les intentions de Capcom. Et quand on connaît bien Resident Evil 7, ça devient très très intéressant à aborder. Et je pense que, en plus d'être très beau, parce que j'y ai joué sur PS5, hein, donc j'insiste sur le fait que le jeu est absolument magnifique. Chacun des décors, en intérieur comme en extérieur, était vraiment superbe. Leur moteur qui est toujours aussi performant, permet d'avoir aussi durant les cinématiques et les rencontres avec d'autres personnages vraiment des visages de extrêmement bien modélisé, extrêmement crédible, avec beaucoup, beaucoup d'expressivité. Donc, techniquement, ludiquement, je pense que ça va être vachement, vachement, vachement bien. Artistiquement, n'en parlons pas, puisque comme je le disais, l'impression d'avoir un Resident Evil 4 en Roumanie est très, très forte. Et vraiment, ça me botte toujours autant. Et les impressions de Romain m'ont bien botté aussi. Hein. Donc ça vaut le coup, je pense, d'attendre le 7 mai pour se le prendre. Je pense.
Sort précisément donc le 7 mai sur toute la machine, quoi.
Absolument. Sur tout ce qui est possible et imaginable, sauf la Switch.
Même sur Stadia, c'est pour dire.
Probablement sur Stadia aussi, je crois. Je ne sais plus s'ils l'ont reconfirmé pour Stadia.
Romain lui l'a mis, hein, donc... J'imagine d'accord. Que ça doit être confirmé.
Oui, non, mais normalement, c'était le cas. Xbox
Series XS, PS4, Xbox One, PC, sur Steam et Stadia.
Oui, c'était le cas. C'était le cas.
Ben voilà.
Bon.
Ben voilà, on a fait le tour un peu de Resident Evil Showcase. Et sur cette démo qu'on vous invite à aller voir, d'ailleurs. Ben, je pense que je la téléchargerai tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais...
Bah, écoute, c'est gratuit. Ça pèse,
Ça
pèse pas beaucoup de gigas, c'est gratuit, mais ça ne dure qu'une demi-heure. Franchement,
oui, c'est pas grave.
Vous allez être frustré. Je vous le dis tout de suite.
Bah écoute, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et si on passait, chers amis, au deuxième thème qui sera surtout pour Thomas, parce que ce sont des petits tests auxquels il a pu jouer et dont il va nous parler viteuf, comme il dit.
Ouais, et là, il n'est pas du tout question de frustration parce que ce sont deux super jeux. On va commencer par le plus récent, on va dire, There Is No Game, qui est un portage de la version qui était sortie sur Steam à l'été 2020 et qui, du coup, est arrivé sur Switch par hasard, à la surprise générale. Hein.
J'en profite tant qu'on peut pour... Vous savez qu'on n'est pas nombreux à la rédac et que c'est très difficile de pouvoir faire tous les jeux. Donc, quand il est sorti en août 2020... on n'a pas pu le faire. on est passé complètement à côté. Là, c'est l'occasion de le rattraper. Donc, merci Thomas d'avoir fait le test de There Is No Game. Ça faisait partie des jeux qui étaient sous nos radars. Et qu'il fallait faire. Voilà, maintenant, c'est l'occasion, grâce à la version Switch. Ça pourra arriver avec d'autres jeux indés qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'essayer et qui arrivent sur Switch les uns après les autres. Il y a eu un indie showcase la semaine dernière avec plein de jeux qui ont été remontrés, et donc voilà, on profitera de la Switch parfois pour en reparler.
Bah, c'est surtout mon cas d'ailleurs, hein. C'est un peu la plateforme rêvée maintenant en dehors du PC pour tester les petits jeux indépendants. Et là, pour le coup, c'est le jeu d'un petit studio français, Draw Me a Pixel, donc en anglais dans le texte, pour le coup, qui nous propose un espèce de point and click très très méta et surtout très drôle, très comique. Alors, je sais qu'on va pas forcément être tous d'accord au sein de ce podcast sur le ton et l'écriture de There Is No Game, mais voilà, faut s'imaginer un jeu qui, au départ, porte bien son nom, puisque dès qu'on arrive, on vous dit bonjour, bienvenue. Petit problème, il n'y a pas de jeu. Il y a un narrateur, une voix en tout cas qui vous accueille et qui vous explique que il n'y a pas de jeu, c'est pas la peine. Éteignez la console et rentrez chez vous. Sauf que on se rend bien compte que avec le pointeur qu'on peut balader un petit peu partout sur l'écran, sur l'écran titre, il y a peut-être quand même des petits trucs à faire. Et on commence par faire tomber la barre du point d'exclamation justement du titre, qui d'un coup permet de débloquer un petit jeu de casse-brique. Et puis en fait, on avance comme ça, puis on se rend compte que y a plein de petites choses à faire, et on avance pas à pas pour se rendre compte que dans There Is No Game, il n'y a pas un jeu, il y a plein de jeux en fait, puisqu'on va aux côtés de cette espèce de narrateur qui s'appelle donc Game. Le narrateur s'appelle jeu, c'est le jeu qui vous parle et qui va en fait vous accompagner à travers tout un tas de petits jeux qui sont généralement en fait des pastiches de genre existant. Je vous l'ai dit, on commence par un espèce de casse-brique, un arcanoïde très, très sommaire. Et d'ailleurs, le narrateur s'en moque en disant « Ok, super, et tu vas jouer à quoi après ?» Snake, Pong, Candy Crush, plein de petites choses comme ça. Et puis ensuite, on débarque par la force des choses et du scénario que je vous laisserai évidemment le plaisir de découvrir dans un point and click à la LucasArts, qui est donc évidemment déjà très drôle en soi, mais qu'en plus on va complètement détourner parce que There Is No Game, c'est un jeu qui est vraiment très méta, c'est un jeu sur les jeux quelque part, et c'est un jeu qui se moque d'ailleurs des jeux, évidemment de la logique complètement ubuesque des énigmes de la grande période LucasArts. Certains classiques en prennent évidemment pour leur grade. Oui, Monkey Island est cité, on te parle d'un singe, d'une manivelle, de grands classiques que tout le monde connaît. Ouais. Et au fur et à mesure, on va comme ça se balader entre différents styles, toujours avec cette mécanique de point and click qui fait que vous dirigez vraiment un marqueur et vous allez pouvoir en fait interagir avec tous les éléments du décor. Mais là où la formule fonctionne merveilleusement bien, c'est qu'en fait, on sort du cadre, on sort en fait de l'écran pour penser les choses différemment et se dire que finalement, tout ce qu'on voit, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et en fait, on va s'amuser à détourner véritablement les codes de tous ces jeux. Après le point and click, on arrive sur un action RPG un petit peu à la Legend of Zelda, A Link to the Past, qui, pareil, détourne tout un tas de codes. Et on va y jouer de manière assez peu conventionnelle parce que c'est un jeu d'action, mais qu'on va quand même utiliser, diriger avec des mécaniques de point and click. Tout ça enrobé d'énormément d'humour et d'une réflexion systématique sur penser en dehors du jeu, puisque la barre de vie va peut-être pouvoir vous servir à un moment donné à activer quelque chose. Il y a vraiment énormément de trucs. On s'amuse avec des mini-jeux qui pop, puisqu'à un moment donné, on arrive dans un espèce de free-to-play, donc il y a des pop-up de publicitaires qui arrivent et qui sont pas innocents, qui eux-mêmes cachent tout un tas de choses. Ah ouais. Et tout ça est hyper bien pensé et surtout vraiment très drôle. Moi, c'est un jeu sur lequel je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusé. Le ton est assez irrévérencieux. En plus, dès le début, il y a tout un jeu avec les accents parce que on passe de There Is No Game à Il n'y a pas de jeu à Game of Onegaishim. Enfin, voilà, plein de trucs avec des caricatures de tout un tas de nationalités qui sont vraiment très, très drôles. Et voilà, en fait, il y a énormément d'idées. C'est un jeu qui se renouvelle, je trouve, beaucoup, qui arrive à vraiment avoir des surprises bien, bien rythmées, bien amenées tout au long de l'aventure, qui dure quelques chapitres. Je ne vais pas vous dire combien il y en a, mais on peut le deviner quand même assez facilement à l'écran titre, mais qui est vraiment bourré de bonnes idées, qui est très drôle, qui est assez original, je trouve, dans son style, et qui en plus profite d'une direction artistique qui part des fois dans un petit peu tous les sens, parce que vu qu'on explore justement tout un tas de jeux différents, on a des environnements qui changent et on s'amuse justement avec les mécaniques de tous ces types de gameplay. Et vraiment, moi, je ne peux que vous le conseiller parce que vous allez vraiment vous marrer et vous allez aussi réfléchir d'une manière un petit peu différente et profiter de cette variété justement d'approche et de ton et passer un très bon moment. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je crois que pour toi, Plume, c'était pas tout à fait la même chose.
Ah bah, si, moi je suis fasciné par le côté envers du décor que le jeu amène et la façon dont il nous fait réfléchir sur comment trouver des solutions à des situations qui semblent complètement bloquées en observant complètement l'écran. Moi, j'ai des souvenirs de publicité pop-up justement sur la partie free-to-play qui pour moi est la pire du jeu parce qu'elle est très très longue et que j'aurais voulu que certains moments soient un peu écourtés. Même si c'est très malin, encore une fois, c'est extrêmement malin la façon dont c'est amené. Mais j'avoue que là pour moi, ça a un peu rallongé la sauce, alors qu'il fallait pas spécialement. Mais oui, il y a des pubs dans lesquelles on peut aller piocher. Enfin, le nombre de choses qu'on peut faire juste avec un curseur, c'est très 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 bien amené. Et effectivement, il y a des moments où l'humour marchait très bien, d'autres où j'étais pas spécialement, où j'étais assez hermétique en fait. Mais honnêtement, j'ai pas souvenir d'un point and click aussi bien pensé depuis très longtemps. Et ça vaut largement le coup de le faire. Je ne sais pas ce que donne ce que je l'ai fait un peu sur Steam, mais je ne sais pas ce que ça donne quand on y joue sur un écran tactile, si ça passe bien. Thomas ?
Alors, c'est une très bonne question. Il va falloir que je fasse le test parce que pour l'instant, j'y ai joué depuis le fond de mon canapé avec une manette pro, en fait.
D'accord.
Parce que tu sais, je suis victime, comme beaucoup de monde, de cette foutue saloperie de Joy-Con Drift qui fait que c'est devenu quasi impossible, en fait, de jouer en mode portable. Du coup, je suis un peu contraint de ce côté-là.
La manette pro de la rédac.
Ah, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Je l'ai acheté de manière tout à fait régulière.
Et légal ?
Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre.
Probablement. Ouais, certains. Et oui, ça vaut largement le coup de le refaire sur Switch comme sur Steam d'ailleurs. Je pense que on est tous d'accord là-dessus.
Oui, peu importe le support, si vous ne l'avez pas fait, que vous voulez passer un bon moment et jouer à quelque chose de vraiment différent et qui propose une petite réflexion quand même sur le jeu vidéo et puis tout un tas de dérives mercantiles et publicitaires, sauter sur There Is No Game, c'est dispo, donc tu l'as dit, Plume, sur Steam, sur Switch. Et en plus, il coûte pas forcément très très cher.
Ça reste court ou c'est...
Tu penses... Ça doit être du 4-5 heures, non?
Ouais, un tout petit peu plus, on va dire autour de 6-7 heures, le temps de vraiment en faire
oui,
le tour.
C'est assez conséquent quand même, ça va.
Mais voilà, on peut arrêter véritablement quand on veut, parce qu'il y a des sauvegardes assez régulières. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un peu le ton, quand le jeu commence, vous avez l'icône de sauvegarde qui apparaît en plein milieu, et le jeu vous dit, surtout au moment où vous voyez cette icône apparaître, coupez immédiatement votre console pour essayer de corrompre le plus de données possible. C'est vraiment que des trucs comme ça, dès le début, dès l'écran titre. Donc voilà, si vous êtes client... Pour moi, voilà, c'est un très bon jeu que je recommande chaudement à tous ceux qui ont envie de rire en ces temps un petit peu compliqués.
Exactement. Bah, écoute, parfait. Très, très bien. Donc, on va se pencher dessus à zap, comme on dit. Et d'ailleurs, le test sur Gameblog arrive... il est peut-être déjà arrivé, en fait.
Bah, à zap.
Exactement.
Pareil.
Il y a un autre jeu qui t'a fait de l'œil même, je dirais.
Oh là là, Thomas. C'est un pro. Oui, bah, effectivement, c'était une autre surprise de l'Indie Showcase de Nintendo. C'était l'arrivée de Fez, comme ça, sans prévenir.
C'était le jour même. Ouais.
Oui, c'était dispo après la présentation.
La presse, ouais. C'est un jeu que j'ai jamais fait, mais j'ai toujours regretté. Mais là, du coup, ça me tente pas mal aussi. Ouais.
Eh bien, laisse-moi te dire que tu es passé à côté de quelque chose, parce que c'était l'occasion pour nous, en tout cas pour moi aussi, de le refaire. Presque 10 ans après, puisqu'il était sorti en 2012, premier jeu éprouvant de Phil Fish, qui avait fini par rage quitter après, quelques mois après, sans avoir entre-temps annoncé un Fez 2 qui ne verra a priori jamais le jour. Fez, si jamais vous ne vous en souvenez pas ou vous êtes vraiment passé à côté, c'est pour rappel un espèce de platformer assez particulier, puisque avec les gâchettes, vous allez orienter le décor et le faire pivoter en fait pour afficher eh bien, des parties que vous ne pouviez pas voir au préalable, et profiter justement de cette mobilité pour avancer dans des décors en pixel art aux commandes d'un petit personnage qui s'appelle Gomez et qui, à partir du moment où il reçoit le fez éponyme en question, eh bien, s'ouvre à la troisième dimension et va du coup pouvoir partir à l'aventure. Alors, c'est assez classique comme ça de prime abord. C'est vraiment un jeu où on se balade d'un décor à l'autre pour récupérer des petits items, les accumuler, ouvrir des portes et puis finalement peut-être percer le secret, l'ultime mystère de Fez. Mais en fait, il y a aussi beaucoup plus que ça. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça fait vraiment partie des moments de mindfuck absolu de cette aventure. Il y a des moments en fait où on bascule dans quelque chose et où on découvre qu'il y a une profondeur qui était, les Anglais disent « hidden in plain sight ». Vraiment, elle était sous votre nez depuis le début. En fait, il y a énormément de choses qu'on ne soupçonne pas durant les premières heures où on découvre Fez. Et en fait, c'est un jeu qui est incroyable, qui est d'une profondeur mais hallucinante, qui explique aussi que le développement ait été si compliqué et si éprouvant pour Phil Fish, qui s'était quand même lancé dans un truc vraiment, vraiment velu. Et exact. Du coup, bah, c'est l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir. Et personnellement, moi, j'étais tombé, mais vraiment à la renverse, quand il était sorti en 2012. Et je trouve eh ben, qu'il est, il est toujours aussi incroyable. Le charme opère toujours autant. Alors, la seule nouveauté véritablement de cette version Switch, c'est que bah, le jeu exploite un petit peu les vibrations HD. Voilà, pour vous donner déjà pour renforcer un petit peu l'immersion, mais aussi pour donner quelques petits indices, parce que le jeu, pareil, a aussi une petite réflexion parfois un petit peu méta et vous demande de sortir et de réfléchir autrement pour résoudre certaines énigmes. Et voilà, grosso modo, la seule nouveauté, c'est les vibrations HD. Pour le reste, eh ben, on garde tout ce qui faisait que Fez est un jeu absolument incroyable. Bouleversant de mon point de vue, véritablement génial. Avec malheureusement, il y a un petit truc qui aurait pu être retouché, mais je pense que ça aurait été quand même très compliqué. Il y a un passage où, si on veut continuer justement à ouvrir tous ces tiroirs, aller un petit peu plus loin, il faut une maîtrise de l'anglais assez solide, avec une référence quand même assez particulière. Ça, malheureusement, ça n'a pas été modifié. Donc, il y a toujours ce petit défaut, cette petite barrière, je trouve, linguistique, à un moment donné dans l'aventure. Mais que vous l'ayez fait ou non, si vous avez envie de le refaire, ou si vous étiez comme toi, Trace, passé à côté, et que vous dites, tiens, c'est peut-être l'occasion de profiter de cette sortie sur Switch pour le découvrir. Mais il ne faut pas hésiter un seul instant, il faut plonger dedans. C'est un jeu absolument incroyable qui a réussi à ne pas prendre une ride, notamment grâce à sa direction artistique qui était quand même assez folle. C'est du pixel art, mais ouais, il y a une gamme chromatique qui est vraiment splendide. Et puis surtout, la bande-son qui est un peu lounge, mais aussi psychédélique, qui crée des ambiances vraiment, vraiment folles. Bref, pour moi, c'est un jeu excellent. C'est même un jeu culte pour moi à titre très personnel. Et comme There is No Game, je ne peux que vous conseiller d'y retourner ou de le découvrir et de profiter de cette occasion, même près de 10 ans après, pour plonger, parce que si vous prenez la peine de creuser et d'aller vraiment au fond des choses, eh ben vous n'allez pas être déçu du voyage.
Parfait. Bah écoute, merci pour ces deux titres, donc indés de très très grande qualité, donc à faire obligatoirement si vraiment ça vous
oui.
tente.
Sinon, je viens chez vous et je vous oblige à y jouer.
Exactement.
Voilà.
Et si on passait au débat maintenant, au débat d'idées, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben vas-y.
Le débat, ça va être sur une intervention très remarquée de John Garvin, réalisateur et scénariste de Days Gone. Mm-hmm. Malheureusement, visiblement, il n'y aura pas de Days Gone 2, Sony ne veut pas. Et le monsieur n'est pas content. Oui, on ne sait pas encore, effectivement. On ne sait pas, tout peut arriver. Mais bon, ça reste quand même un gros jeu, Days Gone, donc il faut quand même beaucoup de moyens, de gens, de temps et d'argent pour se lancer sur un truc comme ça, un projet d'envergure tel quel.
Surtout que lui et Jeff Ross, les deux co-réalisateurs, ils sont plus chez Bend, hein, donc
exactement.
C'est C'est d'autant plus marquant que ça leur tient vraiment à cœur d'en reparler malgré le fait qu'ils n'y soient plus. Tu vois, donc c'est ça qui est très intéressant par rapport aux interventions que l'un et l'autre, donc que ce soit Jeff Ross ou John Garvin, ont eues tous les deux chez David Jaffe,
Jaffi, ouais.
le papa de God of War. Qui maintenant bah, s'est reconverti en YouTuber interview et bah, il peut le faire parce qu'il a évidemment des relations privilégiées avec la plupart des personnes qui travaillent chez Sony et que bah, c'est un mec. Bon, je pense qu'il est un peu cinglé, mais c'est un mec qui est très très intéressant et qui du coup
Un petit peu.
comment dire, un contact et une façon d'analyser et voir les choses qui est peut-être plus intéressante parce et en même temps de poser des bonnes questions aussi. À des personnes qu'il connaît probablement depuis 20 ou 30 ans. Hein. Donc ouais, l'intervention de John Garvin dans un live qui a duré quand même 4 heures, ce
Après,
qui
il faut quand même
est.
la dire. Il faut quand même la dire, c'est quand même assez violent, quoi.
Bah, bah c'est.
Là, je l'ai
Donc
sous les yeux, hein, donc je peux la dire
il
si tu veux.
réagit au fait que tout le monde commence à s'exciter parce que Sony aurait annulé un Days Gone 2 qui a été pitché il y a quelques années et
Il y a
qui
de grosses années.
n'arrivera visiblement jamais parce que Days Gone n'a pas réussi à faire, on suppose, les 5 millions qui servaient à le rentabiliser ou à en faire un jeu, on va dire, important du line-up
Une
de
non-seller, même.
Sony. Et donc il réagit à ça et au fait qu'il y ait des pétitions et tout en disant que bah, voilà, si on aime un jeu, il
Je te laisse
faudrait le
écouter plein
payer.
de jeux.
Bah, vas-y, je te laisse le dire.
Attends, parce que là, du coup, je l'ai perdu.
Ah bah
Je l'avais sous
bravo.
les yeux.
Ah bravo, Traz.
Bien joué, les mecs.
Pardon, oui. Non, mais des fois, ça coupe un peu le son, je suis désolé. Ouais, alors, je vais lire sa réplique exacte.
Ouais.
Donc, j'ai une opinion qui pourrait intéresser ton audience autant qu'elle pourra en énerver plus d'un. Si vous aimez un jeu, payez-le au putain de plein tarif. Combien de fois ai-je lu des joueurs dire, ouais, je l'ai eu en promo, je l'ai eu grâce au PS Plus, etc. Donc, effectivement, ils dénoncent les gens qui se plaignent tout le temps, mais qui n'achètent pas les jeux, quoi. Plein de
Bah
pots.
ouais,
Et qui veulent
et...
des suites, etc. Et qu'en fait, bah, s'ils n'achètent pas le jeu, il peut pas remplir le contrat avec l'éditeur, etc. Donc du coup, il n'y a pas de suite de privilégié, pas de suite d'annoncé, etc. C'est un cercle un peu vicieux, quoi. Donc
Bah, son
pour se
point de
faire
vue,
former, bah, il faut.
je trouve, se
Oui, vas-y.
défend. Il explique ensuite parce qu'il est relancé par Jaffy sur le fait que bah, le jeu, si on n'y a pas joué, on ne peut pas savoir si on va l'aimer, ce qui est quand même un argument, je veux dire, qui est
C'est
assez
un peu la base.
implacable. Voilà. Il en ajoute en disant qu'il ne
Pas
faut pas
seulement
venir se plaindre
implacable.
si, il faut pas se plaindre si un jeu n'a pas de suite, s'il n'a pas été soutenu à son lancement. Donc, partant de ce point de vue, je me dis quand même que c'est une espèce d'ignorance de ce qu'est une réalité par rapport aux joueurs, à savoir qu'un jeu, ça coûte cher, aussi pour le joueur, et c'est normal. Un jeu, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement de la part de plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes parfois, qui se mettent sur un seul projet en même temps, et c'est un investissement et que bah, il faut que l'investissement dès le départ aussi il soit bon. Et comme je le disais dans la news par rapport à ça, c'est que Days Gone, malheureusement, il a eu un problème au début, c'est qu'il n'était pas bien fini et que Rami nous l'avait signalé dans le test. Et moi-même, quand j'y ai rejoué là
C'était le
sur
gros problème.
PS5, mais avant un patch important, donc j'y ai joué dans des conditions confortables, mais il manquait quand même des trucs qui avaient été rectifiés. J'ai eu quand même un moment où je me suis retrouvé à faire une fuite avec un pont, une espèce de ponton en bois sur lequel je devais passer. Enfin, je me disais qu'il fallait que je passe pour bien faire ma fuite. Sauf que bah, j'arrive sur le pont et là, bah, c'est un endroit au fait où il n'y a plus rien. Et du coup, je suis tombé dans un puits sans fond et je mourais. Et je l'ai fait deux fois, et après, bon, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un autre moyen, et j'ai réussi à le contourner. Mais par exemple, ce genre de truc, et d'autres bugs un peu pourris qui
Bah
m'ont. Qui...
c'est un peu rédhibitoire quand tu joues, tu le fais deux, trois fois, après t'arrêtes, quoi.
Bah oui, ça peut arriver. Enfin, encore une fois, il y a une tolérance. Je parlais de la tolérance la semaine dernière par rapport à Oddworld Soulstorm, qui a des trucs qui peuvent être un peu casse-couilles, et suivant qu'on ait vraiment envie de le finir ou pas, on ira outre. La Days Gone, je suis allé outre pas mal de choses. Mais s'il était pire que ça à son lancement, sans oublier le fait que techniquement, en plus, il ramait, et il y avait pas mal de chargements qui étaient un peu pénibles, bah, on peut comprendre que la critique été refroidi de manière générale. Le jeu a pas un Metacritic complètement fou, et du coup, ça a eu une influence sur les joueurs. Ça, c'est normal. Mais après, comment on fait pour déterminer que les joueurs n'ont pas tenu, en gros, un engagement par rapport à un jeu sans savoir qu'ils allaient l'aimer? Moi, je l'ai aimé. Vraiment, je l'ai aimé. Et je l'ai aimé, après, grâce à la PlayStation Plus Collection. C'est comme ça que je l'ai eu.
Moi, j'ai commencé sur PS5, je ne l'avais pas commencé à l'époque, et pour l'instant, je n'ai pas de soucis. Mais bon,
voilà,
j'ai fait quelques heures pour l'instant, et j'avoue que je kiffe bien, quoi.
Et ben voilà, ben,
bon, il y a eu 250 000 patchs depuis, hein, donc...
Exactement, et moi c'est devenu mon monde ouvert préféré dans tous les jeux Sony, PlayStation Studio en monde ouvert sur PS4, c'est devenu mon préféré parce que c'est celui qui me plaît le plus, celui qui me correspond le plus. Mais comment j'aurais pu le deviner, même après ma première preview, quand j'ai joué à la preview du jeu, le jeu me paraissait générique, plutôt moyen, pas plus que ça quoi.
Comme quand il a été annoncé, hein.
Ben ouais, et c'est difficile. Alors, il y avait le principe de la Horde qui m'intriguait, mais c'était pas le truc qui allait me vendre l'univers, quoi. C'est après, grâce aux personnages, au développement du jeu, que je me suis vraiment intéressé. Mais c'est très difficile, je trouve, de pouvoir avoir un discours autant côté consommateur que côté développeur qui soit pas totalement 100% orienté. Thomas?
Oui, alors ça, pour moi, ça soulève vraiment plein de problèmes, la déclaration en question. D'une part, là, sur le cas précis de Days Gone, on part sur une nouvelle licence, c'est-à-dire que tu n'as aucun univers installé, tu peux compter sur pas grand-chose, en fait, pour mobiliser les gens. C'est voilà, la promesse d'un nouvel univers, de nouvelles mécaniques. Donc, tu ne peux pas dire que tu as passé un contrat avec les joueurs, en fait, puisque tu essayes de proposer quelque chose de nouveau. Donc, il faut déjà sortir un premier épisode, voir si ça fonctionne, voir s'il y a des choses éventuellement à corriger, etc. Et en plus, il fait cette déclaration-là dans un monde qui, à défaut d'être post-Covid, est quand même post-sortie de Cyberpunk 2077, qui a été un petit peu un cas d'école, en tout cas sur console, je mets la version PC à part, mais un cas d'école de « on sort le jeu parce qu'il faut le sortir et on le corrigera après à grands coups de patch qui arriveront dans les mois et sans doute même les années à venir ». Donc, d'un autre côté, comment avec ce genre de pratique, qui en plus, c'est absolument pas pour jeter en particulier la pierre à CD Projekt, il y a un nombre hallucinant de studios maintenant qui fonctionnent comme ça, hein, qui te livrent un jeu au moment où là, pour tenir la date de sortie et qui derrière cravachent pour essayer de rafistoler un petit peu tout ça et que le navire ne coule pas en cours de route. C'est compliqué de demander aux joueurs comme ça de sauter à pieds joints plein pot, puisque si tu l'achètes day one, ton jeu, tu le payes vraiment au prix fort. Ça paraît quand même très compliqué de demander ça aux joueurs, de le balancer de manière un petit peu aussi péremptoire, du genre « mais vous n'avez rien compris et tous ceux qui ne l'ont pas acheté au moment de son lancement, vous êtes un peu des traîtres, c'est à cause de vous qu'on ne peut pas faire une suite ». Moi, ça me paraît très déplacé, je trouve, surtout à l'heure actuelle, enfin avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans l'industrie, je peux pas cautionner ce genre de choses.
Ah carrément, tu cautionnes pas?
Bah non.
Moi j'essaie de me mettre, alors je sais pas pour encore une fois si on est dans un exercice de débat, mais j'essaie de me mettre à sa place, et je pense qu'il est très, il est plutôt je pense qu'il est en colère par rapport au fait que c'est maintenant qu'on commence à s'intéresser à Days Gone et que on commence vraiment à dire ah ouais, Days Gone finalement c'est pas mal, et que ça passe après le fait que le jeu ait été dans la PlayStation Plus Collection, après le fait qu'il soit offert ce mois-ci dans le PlayStation Plus. Lui, il aurait préféré que cet engouement, il arrive dès le départ. Et peut-être
ah oui, mais il n'était pas au départ l'engouement parce que le jeu n'était pas fini. Quoi.
Alors, mais peut-être aussi que d'une façon détournée, il fait pas que pointer les joueurs du doigt, mais je pense qu'il en veut peut-être aussi un petit peu à Sony, au passage, de pas peut-être avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir pas avoir fait le forcing
ah oui.
pour essayer de faire du jeu. Quelque chose d'autre que une reponte de The Last of Us en monde ouvert avec des zombies et un biker.
Alors, je suis pas sûr que ce soit vrai parce qu'il y a quand même eu. Alors, le jeu a disparu des radars hein, pendant son développement, pendant un petit moment. Il a refait surface après, mais on peut franchement pas dire que Sony l'ait complètement occulté, l'ait complètement mis sous le coude. Il y aurait sans doute eu moyen de faire autre chose, de plus communiquer dessus, surtout avant sa sortie. Ça,
peut-être de mieux communiquer.
Ou de mieux
c'est mieux communiquer, parce que la communication, il y en a eu. On a été matraqué avant que Days Gone arrive. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une façon, une façon de procéder pour vraiment intéresser les gens qui auraient été, enfin, essayer de faire un storytelling un peu plus intelligent au niveau marketing, au niveau pub, pour que les gens comprennent que c'est pas la rencontre de The Last of Us et de Sons of Anarchy, quoi.
Oui, souligner ses différences. Qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qu'il essaye de faire différemment. Et après, sur la politique de Sony qui propose des jeux gratuitement maintenant de temps à autre via Play at Home et PlayStation Plus, c'est aussi un levier pour eux quand une suite est en chantier. Là, depuis aujourd'hui, mardi, le jour où on enregistre cette émission, Horizon Zero Dawn est dispo gratuitement dans le programme Play at Home. C'est une magnifique façon pour Sony en tant qu'éditeur de préparer la voie à l'arrivée d'une suite, bon, qui elle aura lieu, contrairement à Days Gone, effectivement. Mais c'est aussi maintenant, je pense, un outil marketing qui permet d'installer ou de faire grossir un parterre de joueurs dans le cas où tu veux justement proposer un deuxième épisode ou des spin-offs ou tout un tas de trucs comme ça. Donc c'est un peu facile aussi de critiquer cette démarche-là. Et puis ça souligne aussi un dernier problème pour moi, c'est que pour la plupart des studios, même quand tu as un éditeur aussi costaud que Sony dans la balance, ça veut dire que malgré tout, tu continues à devoir tout miser sur une période de vente qui est extrêmement restreinte et qui, grosso modo, passé les quelques semaines après le lancement, se dégonfle complètement, retombe comme un soufflet. Et on voit qu'en fait, si tu t'appelles pas Nintendo et que tu colles pas Mario sur la jaquette de ton jeu, en fait, tu n'arrives pas à sortir de cette espèce de tout petit cercle qui fait que tu mises tout, tu fais un espèce de all-in sur une période extrêmement courte, ce qui fait que ta fenêtre de sortie, elle est évidemment extrêmement décisive, et que si tu loupes le coche, tu t'es loupé, et ça peut avoir des conséquences désastreuses derrière, comme là, le refus d'une suite de la part de PlayStation Studios.
Ouais, mais après, tu peux te retrouver avec des jeux qui ont des regains d'intérêt aussi soudains que violents, ou qui deviennent des long-sellers d'une autre façon. Bon, on va reparler de Skate 3, évidemment. C'était le 3. Oui, c'est le 3. Oui. Skate 3 qui s'est revendu grâce à PewDiePie parce qu'il y jouait et que tout le monde s'est dit « Ah, mais ça a l'air cool, son jeu ». Mais moi, je pense aussi à Nier Automata. Nier Automata, 4 ans après sa sortie, qui continue, genre tous les 6 mois, c'est 500 000 personnes de plus qui l'ont acheté. Pour un jeu qui était censé être une niche, il est à 5,5 millions là depuis février, si j'ai bien vu. C'est énormissime. Ce qu'il a réussi à faire, Nier Automata, c'est énormissime. Et là, c'est le bouche à oreille, c'est la presse aussi, évidemment. Et ça a créé justement un truc autour de ce jeu. Et je ne parle pas de GTA V et de ses 100 et quelques millions. Bref, moi je pense qu'il y a encore peut-être un moyen que Days Gone puisse avoir un second souffle. Alors, ce ne sera peut-être pas en le payant plein pot, malheureusement, mais ça peut-être servir, parce que la pétition là, qui est en ligne, a dépassé les 50 000 signatures, ce qui est quand même plus que raisonnable.
56 000 là, j'ai regardé.
56 000 là-bas, tu vois. Donc, et elle visait 5 000 au départ.
Hein. En termes de vente, ça fait pas beaucoup. Hein.
C'est sûr. En termes de vente, ça fait pas beaucoup, mais ça veut dire que il y a quand même des gens qui sont susceptibles de faire un geste pour dire voilà, nous on veut quand même une suite ou quelque chose en rapport avec Days Gone. Donc ça, je pense pas que ça motivera Sony, mais ça fera peut-être réfléchir un peu par rapport à la façon dont on va essayer d'organiser du côté de chez certains studios la façon de mettre en avant aussi ces jeux à l'avenir, parce que Days Gone, mine de rien, ça fait un peu gâchis, voilà, par rapport à moi, le ressenti que j'ai sur ce jeu, que vraiment je trouve, mais
maintenant que moi j'y joue, effectivement je me dis mais c'est quand même un sacré hit, quoi. Bien fichu, quoi, aujourd'hui, hein. Après, à l'époque, ouais, effectivement, il y avait pas mal de bugs et tout ça, d'ailleurs dans notre test, Rami il les énonçait un petit peu au fil de l'eau, quoi, parce que il a été arrêté par plein de choses qui l'ont vraiment marqué. Et du coup, il pouvait pas mettre une note plus élevée que ce qu'il a mis. C'était 6, hein, de mémoire.
Absolument.
Il avait hésité entre 6 et 7, mais il disait qu'il y avait trop de bugs rédhibitoires qui le faisaient complètement sortir du jeu, quoi. Donc,
Ça illustre une différence qu'on rencontre assez souvent, mine de rien, avec nos lecteurs. C'est que la plupart du temps, le jeu auquel on joue et le jeu qui sort dans le commerce n'est pas tout à fait le même, parce qu'on n'a pas forcément pu profiter des patchs Day One, et donc il y a plein de choses qui ont pu nous embêter pendant les périodes de test qui disparaissent après. mais après la sortie. Et du coup, c'est toujours difficile.
Alors, pour info, il avait le test, le patch Day One. Hein. Le fameux patch Day One.
Oui, il l'avait eu, oui.
Que Sony nous disait, oui, il faut absolument que vous le fassiez parce que ça change beaucoup de choses. Oui, ça change des trucs, mais ça n'a pas tout réglé. Mais effectivement, ouais. Par la suite, ils se sont encore plus améliorés puisqu'ils en ont sorti je ne sais pas combien.
Ça prouve bien qu'il y avait énormément de choses à corriger au final et que bah, peut-être que le jeu est sorti trop tôt et que Sony a effectivement mal endossé son rôle de producteur sur le développement de Days Gone. Et puis après aussi, genre, je sais que dans le monde impitoyable dans lequel on vit, c'est compliqué, mais est-ce que tu peux te dire aussi que tu fais un pari éventuellement sur l'avenir et que même si le premier Days Gone n'est pas forcément le carton que Sony attendait sur PS4, est-ce que ça vaut pas le coup de miser sur une nouvelle licence et de se dire on va essayer de rectifier le tir avec un deuxième épisode, ouais. Et on va essayer de l'installer et de l'ajouter finalement au panel de licences exclusives dont Sony profite. On peut se louper sur un premier épisode et au fur et à mesure réussir quelque chose de plus intéressant. Mais pour ça, il faut se dire que bah, tu passes par-dessus cette étape du lancement qui répond pas forcément à toutes tes attentes pour peut-être miser sur la suite.
Surtout que les deux co-réalisateurs l'ont bien martelé à David Jaffe, c'est que bah, ils avaient déjà tout prévu pour la suite. Dans leur idée, c'était voilà, la première étape, c'est d'abord on va peut-être se planter sur certains trucs, mais on pose les bases et ça permettra d'avoir justement quelque chose ensuite. Et du coup, bah oui, moi je comprends son agacement par rapport à la situation. Après, j'irai peut-être pas jusqu'à, on va dire, dénoncer les joueurs. Parce que c'est impossible de savoir qu'on va aimer un jeu, qu'on va devenir fan d'un jeu. Je veux dire, là, moi, si, je sais que je vais être fan de Nier Replicant quand il va arriver, de Resident Evil Village, il y a des grandes chances que je sois fan aussi. Mais quand c'est une nouvelle licence, c'est quand même tendu. Voilà.
Exactement. Toujours pareil. Bah, ça passe ou ça casse, hein, de toute façon.
Exactement.
Oui, et puis je veux dire, on a un potentiel, enfin on a une capacité d'intérêt limitée aussi, et on joue déjà quand même à pas mal de choses tous respectivement. Ouais. T'as facilement loupé tel ou tel jeu au moment de sa sortie, et tu n'es pas pour autant un monstre si tu profites qu'il soit disponible gratuitement ou même de l'acheter d'occasion plus tard ou pendant des promotions pour le découvrir. C'est pas non plus très grave et ça devrait pas être de la responsabilité des joueurs. On devrait pas en tout cas pointer le doigt comme ça sur les gens qui pour 1,5 milliard de raisons différentes ne le font pas à la sortie, et une fois de plus à plus forte raison quand c'est une nouvelle licence et que tu sais pas du coup sur quel pied tu vas danser.
Et puis surtout pour oublier qu'effectivement la majorité des joueurs, ils achètent pas 50 000 jeux par mois quoi. Ils ont un budget limité, et quand tu dois acheter un jeu à 70 balles, bah voilà, tu fais attention et tu choisis avec parcimonie. Donc forcément, quand tu mets ça dans les pattes et que t'es un peu frustré à la fin, bah oui, logiquement, t'es un peu énervé, quoi.
Forcément. Enfin voilà.
Voilà. Bon bah voilà pour ce débat d'idées. Je crois qu'on a fait le tour, messieurs, n'est-ce pas ?
Absolument.
Je vais te dire ça. Parfois ça coupe hein, de chez moi, mais bon, c'est pas grave, c'est la fin du podcast.
Ça te donne un petit côté mystérieux, c'est pas mal.
Donc, je sais pas trop si vous avez parlé sur moi ou pas, mais pas de soucis. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette semaine écoulée ou rien de spécial, non ?
Bah, moi je vais te dire ce que je dis comme à chaque fois, oubliez pas de bien, mettre votre masque, de pas faire les cons, parce que là. Là, ça devient pesant, là. Vous voyez, ça devient vraiment, vraiment, vraiment pesant.
Tu connais le double variant indien ou pas ?
Non, je veux pas le savoir, je veux pas le connaître.
Ben voilà. Donc voilà. Trois masques sur toi maintenant.
Ouais, bah déjà deux, je trouve que c'était pas mal. Hein. Donc non, c'est comme d'habitude. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde fasse gaffe, et j'ai envie que la communauté des gamers montre l'exemple et mette des masques et se lave les mains tout le temps et les mains, putain. J'ai les mains complètement sèches, c'est affreux.
Allez, bah, on est au moins deux.
Ouais. Affreux. Ah oui, moi c'est pareil, hein. J'ai les mains là, ils sont en train de partir en vrille. Mais bon, bref. On se fiche. Et bien voilà, c'est parfait. C'est la fin de ce podcast 564. Thomas avec son déodorant sous le bras.
Ouais, je suis pas sûr que je vais l'essayer comme ça.
Ouais.
Allez, on va libérer tout le monde parce que je crois que Thomas, sinon, il va rentrer chez lui à 8h du mat.
Non, mais c'est pas grave. Jouer à Fez.
On vous remercie toutes et tous. Et puis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, jouez bien, portez vos masques, faites-vous vacciner si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, c'est la faute de plume.
Ah oui,
merci Poufi la technique. J'espère qu'il a bien fait l'enregistrement, qu'on recommence pas. Et puis, jouez bien à tous les jeux qui sont sortis, qui vont sortir, qui sont gratuits, pas gratuits, que vous avez achetés.
Plein pot.
Oula. Faites attention à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Tout va bien. Ciao.
Ça n'était pas la WC de Traz en direct.
Ouais, et puis les bugs.